Bonjour,
la chronique animaliste animée par l'antenne nantaise de L214. Moi, c'est Laura, bénévole à L214, et aujourd'hui, je suis en présence de Jonathan, coordinateur de l'association nantaise APALA, aux petits acteurs l'avenir. Ensemble, nous allons parler alimentation soutenable, impact écologique de l'élevage et intérêt de la végétalisation. Le GIEC a publié un nouveau rapport fin février qui alerte sur les conséquences du changement climatique. La température de la planète a déjà augmenté de 1,09 degrés Celsius depuis les niveaux pré-industriels. Et la probabilité que nous atteignions une augmentation de 1,5 degrés Celsius est supérieure à 50%. Il paraît plus que jamais indispensable d'analyser les principales causes du réchauffement climatique et de faire en sorte de réduire les émissions de gaz à effet de serre les plus importantes et faciles à éviter. Quelle est la part de l'alimentation dans les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale ?
Bonjour, alors tout d'abord, pour répondre à cette question, avec l'association APALA dont je suis le coordinateur, on y répond en recherchant les études scientifiques les plus solides, en fait, celles qui sont les plus reconnues dans leur domaine. Et il se trouve que en début 2021, il y a une étude qui est parue dans la revue de publication scientifique Nature qui explique que le système alimentaire mondial est responsable de 34% des émissions de gaz à effet de serre. On peut donc considérer que c'est un tiers du total des émissions de gaz à effet de serre qui sont dues à l'alimentation.
C'est considérable. Maintenant, on peut se demander quelle est la part de l'élevage dans les émissions de gaz à effet de serre émises à l'échelle mondiale ?
Alors, cette question est assez complexe et à vrai dire, il n'y a pas vraiment de consensus scientifique sur la question. Il faut savoir que l'estimation de ces émissions va de 16,5 pour la plus petite part, le minimum, à 87%. Suivant, si on considère le coût d'opportunité carbone, en fait, ce coût d'opportunité carbone, c'est la libération des terres par la sortie de l'élevage et la reforestation. Il faut savoir que la reforestation capture du carbone, donc en sous-sol par les racines et dans les airs grâce aux arbres. Ce chiffre est très controversé. Il y a un collectif allemand qui a analysé ces différences et qui estime à 31% la part de l'élevage en prenant en compte toutes ces analyses. Notre estimation à nous, chez APALA, elle est de un quart à un tiers du total des émissions anthropiques. En se basant sur cette fourchette, on prend les estimations les plus raisonnables dans une fourchette qui nous semble la plus raisonnable également.
D'après ce que tu viens de dire, il y a des variations dans les estimations. Mais on voit bien que l'élevage représente une part importante des émissions totales, même si on considère les estimations basses de 16,5% de la FAO. Ça vaut le coup de creuser un peu plus le sujet. Les vaches sont souvent pointées du doigt pour les émissions de méthane. Est-ce qu'elles jouent un rôle majeur dans les émissions de l'élevage ?
En fait, pour exprimer tous les gaz à effet de serre en équivalent dioxyde de carbone, donc c'est le fameux CO2 équivalent, ils sont tous pondérés par leur valeur de potentiel de réchauffement planétaire. C'est souvent l'acronyme PRP. Donc le PRP, le potentiel de réchauffement planétaire, il se mesure l'impact relatif du réchauffement d'un gaz à effet de serre par rapport au dioxyde de carbone sur une échelle de temps donnée. Généralement, on prend 100 ans. Or, le métal a une durée de vie courte, ce qui fait que si on prend une échelle de temps ramenée à 20 ans, par exemple, et c'est de plus en plus le cas, son pouvoir de réchauffement passe de 28 à 86 fois plus puissant que celui du CO2. C'est pour ça que les vaches jouent un rôle majeur dans le réchauffement climatique. Cette caractéristique en fait un bon candidat pour réduire efficacement nos émissions de gaz à effet de serre. Parce que s'il a un pouvoir réchauffant fort, majeur, il a aussi un pouvoir pour réduire efficacement si justement on arrête d'émettre du méthane avec les ruminants. La FAO nous rappelle que c'est 78% des émissions de tout l'élevage qui sont dues aux ruminants, donc les vaches, les moutons et les autres ruminants. Et en fait, ils représentent moins de 1% des animaux abattus.
L'élevage a de gros effets sur le réchauffement climatique. Mais est-ce qu'il y a d'autres impacts écologiques négatifs ou positifs sur l'environnement ?
C'est ce qu'on appelle plus communément des externalités positives et des externalités négatives. Alors évidemment, l'élevage apporte tout un tas de macronutriments dans la chaîne alimentaire pour l'humanité. Mais en fait, il n'est pas du tout indispensable. On retrouve tous ces macronutriments dans les aliments végétaux, à part la B12. Donc si vous comptez devenir végétalien, il faut se complémentaire en B12. Et plus particulièrement sur la question qui nous intéresse ici, l'élevage est responsable de pas mal d'externalités négatives. Et il y a le chercheur du groupe allemand, du collectif dont je vous parlais tout à l'heure, Martin Müller, il explique qu'en fait c'est la principale cause pour les trois autres limites planétaires qui sont dépassées, qui sont les flux biochimiques. Ce qu'on entend souvent, c'est l'azote et le phosphore, et surtout la biodiversité directement liée à celle du changement d'affectation des sols. L'IPBES, c'est le GIEC de la biodiversité. Il rappelle que c'est le changement d'affectation des sols qui est la première cause de chute de la biodiversité dans le monde.
On vient de voir que l'élevage participe à l'épuisement des ressources planétaires. Mais est-ce que c'est tout le temps le cas? Est-ce qu'il n'y a pas certains cas où l'élevage peut être bénéfique? Par exemple, on entend souvent que les prairies stockent du carbone et donc que l'élevage extensif est écologique. Qu'en disent les études scientifiques?
Alors, pas vraiment. Pourquoi? Bien que les ruminants aient la capacité de favoriser la séquestration dans le sol par les prairies, la relation entre le pâturage et la séquestration est extrêmement complexe et sensible au contexte. En fait, elle est influencée par des variables telles que le climat, le type de terrain, la qualité des sols, les espèces végétales présentes, etc. Donc c'est pas du tout une question simple. La compensation optimale d'une prairie est de l'ordre de 10 à 15% maximum. Et oui, il y a un autre point, c'est que elle ne peut être maintenue que quelques dizaines de décennies. Et il n'y a pas de garantie qu'elle soit maintenue. En fait, le taux de séquestration chute naturellement au cours du temps. Les émissions, elles, ne disparaissent pas. C'est, en général, la prairie en elle-même est bien un puits de carbone. Mais la prairie toute seule, pas s'il y a des vaches qui pâturent dessus. Parce qu'en fait, jamais les émissions de méthane ne sont compensées par la prairie elle-même. Donc la prairie pâturée ne peut pas être un puits de carbone. Et donc non, la côte de bœuf n'est pas un produit écologique. Et sinon, je vous conseille un rapport de l'université d'Oxford qui a fait du bruit en 2017, qui s'appelle Grazed and Confused. Et ce rapport scientifique, c'est le rapport scientifique de référence sur la question. Et il est très clair à ce niveau. Hein. Dans la conclusion, il est rappelé, à un niveau global, les émissions générées par ces systèmes de pâturage l'emportent toujours sur les absorptions.
Merci pour ces explications sourcées. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'amener plus de bio et de local, notamment par les plans agricoles territoriaux qui chiffrent des objectifs sur ces questions. Mais la végétalisation est souvent passée sous silence. Est-ce parce que le bio et le local sont des leviers plus importants que la végétalisation sur les gaz à effet de serre ?
Alors, tout à l'heure, je parlais de l'étude de référence tout début de la chronique qui a été publiée dans Nature, qui en fait nous explique que c'est un tiers des émissions de gaz à effet de serre dues au système alimentaire mondial. Et dedans, il précise que en fait, le transport, la vente au détail, la transformation alimentaire ne représentent qu'environ 5% de l'alimentation chacun. Par ailleurs, nous, on a fait quelques recherches et on s'est rendu compte que d'après les méta-analyses, le bio émet environ la même quantité d'émissions de gaz à effet de serre, mais utilise entre 20 et 35% de terres supplémentaires pour produire la même quantité d'aliments. Par ailleurs, évidemment, ce qui peut être mangé localement doit être privilégié. Pour résumer, on a un plus gros levier de réduction d'impact par le passage au végétal plutôt que par le bio et le local.
Quelle proportion de terres l'élevage occupe-t-il ? Pour produire une même quantité de nourriture animale ou végétale, est-ce qu'on a besoin des mêmes surfaces ?
Là, je vous conseille d'aller sur le site de Urban Data qui visibilise très clairement ces questions grâce à des graphiques dynamiques qu'on peut incruster sur nos propres sites internet. Et en fait, il montre que l'élevage utilise 27% des terres émergées, comparé par exemple à l'urbanisation et toutes les infrastructures, les routes y compris, c'est 1%. Et pour les terres agricoles, l'élevage, il occupe 77% des terres agricoles, ce qui nous laisse donc... Et pourtant, à l'échelle mondiale, l'élevage fournit que 18% des calories et 37% des protéines à l'humanité. On peut donc dire, en résumant, que l'élevage, c'est un maximum d'impact environnemental pour un minimum d'apport nutritionnel.
D'après ce que tu viens de dire, l'élevage occupe des surfaces très importantes par rapport à la proportion de nourriture qu'il produit. C'est en partie dû aux céréales que l'on fait pousser pour alimenter les élevages. Il y a donc une perte d'aliments. Est-ce que l'élevage consomme plus d'aliments qu'il n'en délivre ?
En fait, contrairement à une idée reçue, à l'échelle mondiale, l'élevage consomme des ressources plutôt qu'il n'en apporte. On a l'impression qu'il en apporte, mais en fait, de par sa faible efficience énergétique, il consomme des ressources plutôt qu'il en apporte. Donc, par exemple, pour avoir 1 kg de viande désossée à partir des ruminants, il faut en moyenne 2,8 kg d'aliments consommables par les humains et 3,2 kg d'aliments consommables par les humains pour les monogastriques. Plus généralement, et c'est une règle qui est valable, c'est pour produire une protéine animale, il faut donc en moyenne 10 protéines végétales. Ce qui fait que 9 protéines sur 10 sont perdues. Ça fait les 90% d'énergie de perte. Le résultat, c'est que l'élevage consomme un tiers des céréales mondiales, et c'est à peu près la même chose en France. Si on ne passait pas par l'élevage, on éviterait ainsi une perte de nourriture importante. Et c'est ce qu'on appelle le fameux coût d'opportunité alimentaire.
Tu nous as dit que l'élevage occupe 77% des terres agricoles. C'est beaucoup. Si on diminue l'élevage, ça va libérer des terres. Est-ce que planter des forêts sur ces terres libérées permettrait de séquestrer du carbone de manière significative ?
À ce sujet-là, on a fait une publication dernièrement lors de la sortie du GIEC, parce qu'on est tombé sur une publication scientifique hallucinante, tout simplement. Elle nous annonce que l'élimination progressive rapide donc de l'élevage à l'échelle mondiale a le potentiel de stabiliser les niveaux de gaz à effet de serre pendant 30 ans et compenser 68% des émissions de CO2 au cours de ce siècle. Comme je le disais, c'est la libération des terres par l'élevage et la reforestation qui nous apporte cette séquestration carbone. Plus importante que les prairies, comme on l'a vu tout à l'heure. Et moi, à ma connaissance, il n'y a pas de mesure qui puisse prétendre à une telle réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale.
Est-ce que, pour terminer, tu veux dire un petit mot sur les activités d'Appala, sur le thème de l'alimentation ? Comment fait-on pour être tenu au courant des prochains événements de l'association ?
L'association se penche sur le sujet depuis quelques années maintenant. On a pu développer pas mal de formats, de prestations différentes pour pouvoir tester en fait l'effectivité de la transition alimentaire sur plusieurs aspects. On fait du parmesan végétal par exemple, sous le nom Or Blanc, pour réduire l'impact environnemental du fromage. Donc on le distribue dans plusieurs points de vente à Nantes. On a un service de restauration, surtout pour les entreprises, mais pas que. Et on propose de faire des buffets végétaux pour montrer que c'est possible. À côté de ça, on fait pas mal de publications, de vulgarisation sur les sujets. On a une grosse activité de recherche et là on prévoit d'aider et d'accompagner les métropoles dans leur transition alimentaire pour donner les bonnes infos tout simplement, les infos les plus recoupées, les plus solides pour bien aiguiller la réduction de l'impact environnemental par la transition alimentaire. Pour nous suivre, le plus simple c'est de nous suivre sur la page Facebook de Appala, donc aux petits acteurs l'avenir. Le slogan de l'association c'est pour un mode de vie soutenable.
Comme vous le savez, nous sommes en pleine campagne présidentielle et les politiques peuvent jouer un rôle majeur en faveur ou contre les animaux. C'est pourquoi L214 met à disposition des informations sur la position des candidats et des candidates à la présidentielle sur la condition animale. Pour consulter leurs notes, allez sur le site internet Politique et Animaux Présidentielle 2022. Les candidats et candidates sont notés suivant 6 axes d'engagement portés par L214 pour mettre fin aux pires pratiques et réduire le nombre d'animaux exploités et tués. Parmi ces axes, on retrouve sortir de l'élevage intensif, mettre fin à la pêche industrielle et démocratiser l'alimentation végétale. Il y a aussi des outils d'interpellation qui sont proposés pour encourager l'ensemble des candidats et des candidates à s'engager en faveur des animaux, ainsi qu'une pétition à signer en ligne contre l'élevage intensif et la pêche industrielle. Enfin, si vous souhaitez voir un film qui sensibilise à la cause animale, mais aussi à notre santé et à notre environnement, le cinéma Bonne Garde à Nantes organise la projection du film Empathie le 28 mars à 20h. La projection sera suivie d'un échange avec des bénévoles de L214 Nantes, l'Association végétarienne de France et un éleveur labellisé Bleu Blanc-Cœur. Merci à toi Jonathan d'avoir pris le temps d'échanger avec nous aujourd'hui. On repart avec plein d'informations sur l'impact écologique de l'élevage. Il n'y a pas de doute, la végétalisation est un levier incontournable pour faire face aux enjeux écologiques. Pour finir cette chronique, est-ce que tu as une musique sur la cause animale que tu voudrais nous faire écouter ?
Oui, Tout à fait. Juste avant, j'ai vu Empathie, j'ai trouvé ça génial. Donc, courez-y et allez le voir. Et pour l'artiste, donc Moby Discolize de l'album Last Night.
C'était Discolize de Moby, de l'album Last Night. Merci de nous avoir écoutés.